l'Est de l'Union soviétique. Et là, Nikita Khrouchtchev dévoile son rapport secret. Le premier secrétaire du comité central du Parti communiste se met à dénoncer les crimes de Joseph Staline, qui l'avait précédé au pouvoir. C'est ainsi que débute, Alain Jacques Tornard, la déstalinisation de l'URSS. On change de figure dirigeante, mais est-ce qu'on change vraiment de doctrine ?
Ouais, ça s'est passé d'ailleurs de manière extrêmement étonnante sur le moment. Hein. On est dans la nuit d'ailleurs, hein, du 24 au 25 à Moscou. Puis les délégués du 20e congrès du Parti communiste du RSS s'apprêtent à quitter la salle hein, après 10 jours de débats sans anicroche à la soviétique. Hein, on applaudit, on a des discours sans surprise. Et les journalistes, les délégués étrangers ben, sont déjà sortis. Mais justement, c'est ça le but. C'est d'attendre que les journalistes soient déjà sortis. Et tout à coup, Mike, coup de théâtre. Nikita Khrouchtchev, premier secrétaire du parti, demande alors aux délégués de se rasseoir. Et pendant 4 heures, je dis bien 4 heures, ouais, il va leur lire un rapport secret, top secret, dont il sera expressément demandé de ne divulguer aucun extrait écrit à l'extérieur. Et pour cause, il s'agit rien que moins de changer d'époque, celle de Staline, parce qu'on était encore dans cet héritage. Vous vous rendez compte la place que tenait dans l'imaginaire collectif Staline.
Avec ce culte de la personnalité. Hein.
Oui, mais bien entendu. Le dictateur soviétique, parce qu'il faut quand même l'appeler comme ça, s'honorait du titre de Vojd. Je ne sais pas si je prononce juste Vojd, V-O-J-D, mot russe qui signifie guide. Ben, ça vous rappelle quelque chose, ça, guide.
Oui, guide.
Führer en allemand,
voilà.
Caudillo en espagnol.
Aussi,
hein,
aussi, hein.
Mais bien entendu, la propagande communiste le surnommait aussi le petit père du peuple. Ouais. C'est charmant, ça.
Tellement affectueux comme dénomination pour quelqu'un qui a tué des millions de personnes.
Non. Exactement, faut pas l'oublier cela. Alors ce qui est terrifiant, c'est que encore il y a dernièrement là je voyais des reportages sur la Russie actuelle. Je ne vous dis pas la nostalgie que certains ont du temps de Staline. Ouais. Du temps de Staline, on s'occupait des gens, c'était merveilleux, il pensait au peuple, il était gentil et
tout. On a vu quand l'Allemagne a été réunie aussi hein, et on avait cette nostalgie en Allemagne de l'Est.
Hein. Exactement, d'ailleurs quand il est mort, le monde entier s'est figé dans la stupeur, la désolation. Il y a eu aussi une vague de soulagement chez certains, quoi. Comme au temps de Robespierre et de Thermidor. D'ailleurs, ses obsèques le 9 mars à Moscou se traduisent par des scènes littéralement d'hystérie collective. Plusieurs centaines de badauds sont écrasés par la foule. Hein. Nous, on a les images plutôt soft des gens qui défilent devant son catafalque. D'ailleurs, il est enterré à côté de Lénine. Vraiment. Mais aussitôt qu'il est mort, le problème, c'est que sur le terrain, on se partage le pouvoir. Et c'est un déchirement complet parce que on avait eu très peur. À la fin, tout le monde craignait d'y passer. D'ailleurs, quand il est mort, on n'osait même pas rentrer dans sa chambre. On attendait qu'il soit vraiment mort pour être sûr. D'ailleurs, il a agonisé tout seul parce qu'il avait eu une attaque cérébrale. Personne n'est venu à son secours parce qu'on craignait. D'ailleurs, il avait éliminé les médecins parce qu'il pensait à un complot des médecins. Et voilà. Et Beria, le maître de la police, attribue la vice-présidence du Conseil des ministres, ministère des Affaires intérieures, la sécurité de l'État. Donc, on peut imaginer que tout va se passer, continuer dans le meilleur du monde. Bon, quand même, l'agitation gagne les camps de Sibérie, le pays soumis aux joug soviétiques. D'ailleurs, très peu de temps après, il y a une révolte des ouvriers allemands à Berlin-Est, vous savez, cette fameuse révolte du 17 juin 1953. Et craignant les effets délétères d'une démocratisation trop rapide, eh bien, le présidium de l'URSS se réunit en urgence. Beria est arrêté, exécuté aussitôt. Ça, c'est la méthode soviétique. Et c'est Nikita Khrouchtchev qui arrive au pouvoir parce que finalement l'appareil de l'État veut souffler, profiter un peu de la nomenclatura, des avantages du pays, et donc on purge l'armée, des éléments les plus staliniens. Bien sûr que les crimes de Staline sont dévoilés au grand jour, parce qu'en fait quand ce rapport dit secret, mais il a fuité naturellement très rapidement, et là c'est la douche froide, on apprend que c'est absolument une horreur ce qui s'est passé.
Mais est-ce que c'est vraiment la perestroïka au moment où voilà, on décide de tirer un trait sur les les années Staline.
C'est pas tout à fait la perestroïka, même si Gorbatchev disait qu'il s'était inspiré de Khrouchtchev, qui d'ailleurs apparaissait comme un homme politique sympathique, un peu bonhomme. Vous savez, c'est quand il tape sur à l'ONU.
J'allais dire, ça avait été le geste qu'il a fait entrer dans l'histoire. Hein. Quand il se déchausse et qu'il tape sur la table du. Oui. C'était où encore? C'était au.
À l'ONU,
voilà, pour réclamer l'attention.
Mais c'est aussi l'homme des missiles. Il ne faut pas l'oublier qu'il a soustrait l'argent qui devait pour profiter au peuple, justement pour assouplir les mesures alimentaires, par exemple, pour faire des missiles. Mais il a aussi fait quelque chose qui est dans l'actualité, c'est qu'il a donné la Crimée aux Ukrainiens. Et là, c'est toujours quelque chose qui subsiste. Ça a été le début du processus qui mène à la guerre actuelle.
Ukraine, vous avez dit Ukraine. Vous en parliez déjà la semaine dernière, Alain-Jacques Tournard. Vous nous avez mis dans le bain en parlant de la déstalinisation. Eh bien, second volet de notre émission consacrée à l'Ukraine, juste après l'info de 8h30 qui va nous être présentée tout de suite par Loïc Jura du Fribourg.
C'est une autre histoire.
Toujours en compagnie d'Alain-Jacques Tournard, notre historien maison. Alors, la semaine dernière, vous nous avez fait peur, Alain-Jacques Tournard. Vous nous disiez qu'une guerre en Ukraine était désormais inévitable. Et comme pour vous donner raison, eh bien, les nouvelles sont arrivées ces dernières heures. La reconnaissance de l'indépendance des territoires séparatistes ukrainiens et l'envoi de troupes dans ces républiques de la part de la Russie. Dans notre dernière émission, vous avez analysé le mécanisme menant à la situation inextricable que nous connaissons aujourd'hui vue de l'Occident. Aujourd'hui, c'est le second volet, tout aussi intéressant. Vous allez nous raconter plus ou moins la même histoire, mais vue du côté russe cette fois.
Oui, les Russes pensent qu'ils sont légitimes dans leur action. Historiquement légitime. Pour plusieurs raisons, sur le plan de leur propre histoire et sur le plan de notre histoire à nous. Vous vous souvenez, il y a quelques années, enfin c'était il y a une vingtaine d'années, j'avais dit qu'on commettait une grave erreur en rompant avec l'intangibilité des frontières quand nous avions reconnu le Kosovo arraché à la Serbie. Je ne parle pas du fond, je ne parle pas de la justesse, de savoir si on est pour ou contre. Je parle simplement du fait même. On avait là ouvert une boîte de Pandore et les Russes s'y sont précipités. En occupant une partie de la Géorgie, par exemple, quelques années plus tard, en 2008, et aussi en favorisant les séparatismes dans le Donbass ukrainien. Et tout cela est légitime de leur point de vue, puisque c'est nous-mêmes qui avons engagé ce processus. Comment pouvons-nous leur refuser ce que nous avons fait nous-mêmes? D'ailleurs, on a fermé les yeux quand les Turcs avaient fait main basse sur la République de Chypriote du Nord, qu'ils avaient créée de toutes pièces et qu'ils sont les seuls à l'heure actuelle encore à reconnaître. C'est à date de 1974 et ça dure toujours. Donc, pousser des cris d'orfraie maintenant, c'est quand même un peu... on voit bien que là, on n'est pas dans la justesse ou dans la justice.
C'est vrai, il faut être beau joueur.
Il faut être beau joueur. Alors, pourquoi pour les Russes, historiquement, c'est important? Parce que la nation russe est née il y a 1000 ans autour de Kiev. L'enjeu, c'est pas le Donbass, c'est l'existence même de l'Ukraine qui est illégitime aux yeux même des Russes, qui pour eux, c'est les Ukrainiens, les Biélorusses, les Russes font partie de la même famille historique des Slaves. D'ailleurs, les Russes n'avaient pas hésité à plusieurs reprises à mettre la main sur ce territoire ukrainien du temps des Romanov au XVIIe siècle. Dans l'esprit du tsar, la terre, c'est une terre russe qui n'avait droit à aucun statut particulier. Ainsi, le métrolite, donc une sorte de super évêque là de Kiev, chef religieux de l'Église orthodoxe ukrainienne, était placé sous l'autorité du patriarcat de Moscou et ce jusqu'en 2019. L'ensemble du territoire ukrainien était passé sous le contrôle de la Russie à partir de la fin du XVIIIe siècle. Et même si l'empereur Alexandre II s'était montré quand même plus souple, plus démocrate, il n'avait fait aucune concession en ce qui concerne l'Ukraine. Pour lui, c'était un territoire russe. D'ailleurs, c'est valable aussi pour la Crimée, qui avait été russifiée après la prise sur les Turcs de cette île, péninsule, je ne sais pas comment on doit l'appeler.
C'est 19e, ça, je crois.
Voilà, exactement.
La fameuse guerre de Crimée.
Exactement. Longtemps désigné sous l'appellation de Petite Russie, par exemple. Malo-Russia, du fait de sa parenté étroite avec la Russie. Les bords de la mer Noire, appelés aussi Nouvelle-Russie. Donc tout ça, c'est... D'ailleurs, Biélorussie, dans le Biélorussie, que vous le vouliez ou non, on a le mot Russie. Je pense que si on veut enlever mentalement l'Ukraine à la Russie, il faudra détruire la Russie. On n'aura pas le choix, c'est-à-dire détruire au sens aussi de l'humilier. Poutine rêve de reconstituer non pas l'Union soviétique, mais une sorte d'union eurasiatique, douanière, économique, avec plus d'affinité.
Est-ce que ça correspond à un état des frontières que la Russie a connu dans le passé, du temps des tsars, par exemple ?
Voilà, exactement. Ah, on est plutôt dans cette configuration-là. D'ailleurs, leur intervention, Kazakhstan, tout ça montre bien que là, c'est pas seulement une question de précaré, aussi de sécurité, bien entendu, mais c'est aussi cet esprit impérial qu'avait la Russie, qui va finalement de Königsberg à Leningrad jusqu'à Vladivostok, quelque part. Donc ce nouveau tsar de toutes les Russies, comme on dit quand on veut se moquer, eh bien aussi, comme on lui a refusé l'entrée dans l'Europe, il se replie sur sur ce précaré-là. Donc, il ne pourra pas reculer. C'est impossible, parce qu'il a le peuple russe derrière lui. Tous ceux qui sont même anti-Poutine ont cette idée en tête. Et quand on parle du Donbass, je rappelle quand même que c'est un territoire appartenant, certes, à l'Ukraine, mais peuplé essentiellement de russophones. Donc, ce que l'on a en effet accepté pour d'autres peuples, le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, il est difficile de leur refuser. D'ailleurs, vous avez remarqué qu'on ne s'est même pas posé la question de savoir, pourquoi ne pas discuter de cela ? Parce qu'il y a une partie de l'Ukraine qui n'a jamais été quand même cette Ukraine qui avait fait partie de l'Empire austro-hongrois, par exemple. Celle-ci n'a aucun esprit lié à la Russie.
C'est pas la même culture.
Et d'ailleurs, au niveau religieux aussi, il y a des différences notoires. Mais il n'empêche que les Russes veulent revenir sur le devant de la scène. Ils en ont quand même l'air de rien quelques moyens, parce qu'on se moque toujours en disant que leur économie se situe entre la Corée du Sud et l'Espagne.
Ils ont une armée quand même.
Ils ont une armée, la technologie, le nucléaire. Par exemple, c'est les premiers exportateurs au monde de centrales nucléaires. Ils ont
des fusées aussi.
Oui, et puis il ne vous a pas échappé que le pétrole, le prix de l'essence augmentait terriblement. Voilà, et que c'est leur manne, puisque une grande partie de leurs ressources sont liées au gaz et au pétrole.
Il faut quand même que je pose la question qui fâche, hein, Jacques Tornard. Visiblement, on s'achemine vers une guerre. Quelles seront les conséquences pour l'Europe, pour le monde occidental et peut-être plus spécialement pour nous, la Suisse?
La Suisse, comme d'habitude, sera neutre, c'est-à-dire pro-américaine. Elle attendra sagement qu'on lui dise ce qu'il faut faire. J'imagine, je ne veux pas être cynique, mais les Européens vont s'aligner plus ou moins, bien entendu, sur cette politique. Ils n'ont pas le choix. Même les Allemands ont reçu l'ordre de ne pas faire mettre en place le pipeline, Nord Stream 2. Donc, on va attendre ce que nous diront les Américains. J'aimerais bien faire une émission là-dessus, parce qu'ils jouent un drôle de jeu dans cette histoire-là, les Américains.
Pourquoi pas une de ces prochaines semaines? On va voir comment la situation va évoluer.
Le problème avec le Donbass, c'est que la République, les deux républiques qui ont été reconnues par la Russie. D'ailleurs, elle en a sur le plan international, bien sûr, ça rompt avec les accords de Minsk, bien entendu. Mais tout ça, c'est un processus qui a été engagé, je le rappelle, en 2014 et qu'on poursuit à l'heure actuelle. Mais elle a reconnu l'ensemble de ces deux républiques, c'est-à-dire y compris la partie qui est encore occupée par les Ukrainiens. Alors, tout est question de savoir. C'est un joueur d'échecs, naturellement, Poutine. Le président Macron parle de schizophrénie. C'est sans doute pas du tout le cas. Il sait jusqu'où. Et voilà, la question c'est, Poutine sait-il jusqu'où il peut aller trop loin? D'ailleurs, j'ai un de mes auditeurs, Guy, qui m'a fait toute une série de remarques là-dessus, d'ailleurs, très intéressantes, où il évoquait justement, c'est un de nos fidèles auditeurs.
Bonjour Guy.
bonjour Guy. Il m'a fait des remarques très intéressantes au sujet justement de cette politique de Poutine qui est particulièrement, incomprise en Occident. On ne comprend pas comment fonctionne Poutine, comment fonctionnent les Russes, parce que ça nous est étranger. Et ça, finalement, il faudrait peut-être en tenir compte. Nous ne sommes pas les seuls à penser au monde et le monde.
On va en reparler très certainement ces prochaines semaines. Merci beaucoup Alain-Jacques Tornard. Quand même.
C'est une autre histoire.
Le 24 février 1946, le général Perron était élu président président de l'Argentine. Et quand on évoque Juan Perón, évidemment, impossible de ne pas penser à Evita et à cette chanson. Don't cry for me.
I kept my promise, don't keep your distance.
Voilà, quelques notes de Don't Cry For Me Argentina, extrait de la comédie musicale Evita, musique d'Andrew Lloyd Webber. Evita, alias Eva Duarte, fut l'épouse de Juan Perón depuis 1945, avant de décéder en 1952 déjà. Vous êtes témoin, Alain-Jacques Tornard, d'habitude vous me reprochez de ne jamais laisser des extraits musicaux assez longs quand il y a des comédies musicales. On en a eu presque une minute là, vous êtes satisfait. Hein,
oui, 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 tout à fait. Ma petite famille me dit que les autres morceaux de la comédie musicale sont aussi très, très très beau, on passe toujours celui-là, mais ça vaut la peine
pour
de
accrocher nos auditeurs. Il faut sortir le morceau le plus célèbre, Alain-Jacques.
Forcément, Perón. Personne, tiens, ça me fait penser que personne connaît son prénom à lui, c'est Juan Domingo Perón.
Ouais. Jean-Dominique en français.
Voilà, hein. Mais tout le monde connaît sa femme. Derrière un homme politique, il y a une femme et elle a joué un rôle énorme. Il faut dire aussi que longtemps avant d'avoir épousé cette femme charismatique, eh bien, il avait fait une carrière militaire banale, mais il a surtout séjourné à l'étranger, à partir de 1939, dans un pays qui s'appelle l'Italie. Mmh. Et donc, c'est un aspect d'ailleurs qu'on parle un petit peu moins de cet aspect-là de la période, parce qu'il a été littéralement fasciné par le parti fasciste italien, parce qu'on faisait appel aux couches les plus humbles de la population, on tenait un langage propre à faire vibrer le nationalisme, le côté leadership, tout simplement. Tout à l'heure, hein, on parlait des grandes formules qu'on utilisait, caudillo, etc. Et là, ça l'avait vraiment formé. Et il avait conçu une vision mi-autoritaire, mi-généreuse, ce qui fait qu'il y avait vraiment une volonté d'en appeler au peuple, au point qu'on a même cru à un moment donné qu'il était socialiste, voire...
Ouais, c'est vrai que ce péronisme, c'est le mouvement qu'il a véritablement lancé, qui a pris son nom. Difficile de dire si c'est vraiment un parti de gauche, de droite.
Exactement. Alors bon, il avait participé à un coup d'État, il avait accédé au gouvernement, il a été libéré grâce à sa femme qui avait fait très habilement une campagne de presse absolument inouïe. C'était sa maîtresse, elle deviendra sa femme pour qu'il puisse devenir président de la République. Et il est élu, en effet, ce 26 février 1946. La nouvelle présidente, parce que souvent on parlait de la présidente, qui était Evita. Alors, elle, c'est un personnage vraiment qui a eu énormément de poids à l'époque. Et puis, elle est tombée malade, elle avait un cancer de l'utérus, ce qui fait que, quand elle est morte, le peuple tout entier a été bouleversé. D'ailleurs, lui ne s'en est quasiment jamais remis, puisque...
Ils étaient vraiment très amoureux, les deux. C'était pas seulement un couple d'apparat.
Non, ils étaient extraordinairement liés. C'était un véritable mythe. Pour rien, d'ailleurs, que ça a donné une comédie musicale, des films. D'ailleurs, il ne va pas, lui, se maintenir au pouvoir. Il sera renversé lui-même le 19 septembre 1955. Parce qu'il n'était plus que l'ombre de lui-même. Et longtemps, il voudra revenir au pouvoir. Et c'est grâce... Il va épouser une autre femme Isabelle Martinez, qui était une danseuse argentine de 25 ans. Et il va réussir à revenir in extremis au pouvoir le 20 juin 1973, mais lui-même est à un certain âge, il a le cœur fragile, il meurt, et c'est sa femme qui va le replacer à la présidence. Mais le problème, c'est que le péronisme, comme vous l'avez si bien dit, est très divisé dans ses différentes tendances, hein. Est-ce que c'est un parti fascisant, est-ce que c'est un parti populaire, est-ce que c'est un parti de gauche ou de droite, nul ne le sait. Et parce que dans un certain cas, on s'était lancé dans des privatisations, dans d'autres cas. Mais en même temps, ça a complètement déstabilisé l'Argentine, qui s'était beaucoup enrichie pendant la Seconde Guerre mondiale, parce qu'elle vendait des céréales, des vaches, à travers, avec les belligérants. Mais ces réformes qu'il avait instaurées, finalement, ont mis à genoux l'Argentine. Et ensuite, le pays sera terriblement déstabilisé. Vous vous souvenez qu'il y a eu l'ère des généraux, des assassinats collectifs, des
ouais, histoire très tourmentée.
C'est une histoire qui a eu 4 juntes en 7 ans. Le général Videla, l'invasion des Malouines, tout cela fait qu'il y a eu 500 000 d'Argentins qui sont partis en exil. Et vous vous souvenez des veuves qui étaient sur la place de Mai à Buenos Aires pour montrer que voilà, pour protester parce qu'on n'a jamais véritablement tourné cette page. Mmh. Donc finalement, veut dire c'est comment dirais-je un bilan contrasté. Ouais. L'ère de Perón.
Il y a encore des traces du péronisme aujourd'hui en Argentine.
Oui, il y a toujours
ce parti.
Oui, ce fameux parti est toujours là. Ça fait partie, comme on dit dans le langage officiel, du paradigme du populisme latino-américain.
C'était un 24 février 1946 hein, que le général Juan Domingo Perón était élu président de l'Argentine. Il ne vous a pas échappé, mon cher Alain-Jacques Tournard. On garde encore un petit sucre pour la fin. Hein. C'est la partie bonus de cette émission que nous sommes le mardi 22 février 2022. Et un 22 février comme aujourd'hui, la Révolution française de 1848 éclatait. J'ai en face de moi l'auteur quand même de la Révolution française pour les nuls, toujours disponible aux éditions First. Moins connu, hein, cette révolution de 1848.
Mais il n'y a pas les Suisses pour assurer l'animation.
Ah, bah voilà. C'est pour ça qu'elle n'est pas intéressante, cette révolution.
Il y avait les Suisses qui protégeaient la Bastille en 1830. C'est pour ça qu'il y a Delacroix qui fait ce magnifique tableau, La liberté guidant le peuple, avec ce soldat suisse à terre, en bas, parce que les Suisses... Mais en 1848, c'est une révolution qu'on a... Bon, on sentait que le régime était fragile. Le roi bourgeois, Louis-Philippe, il n'avait pas suffisamment démocratisé le pays. Il y avait eu une crise économique. Les années 1845 avaient été très dures en Europe, en Suisse aussi, beaucoup d'émigration. Le pays est déstabilisé. C'est le début de l'ère industrielle, les ouvriers qui commencent à contester. Ça va devenir le début du communisme. C'est pas pour rien qu'on a appelé cette époque le printemps des peuples. Il y aura... inauguré quelque part par les Suisses en 1847 avec leur propre j'allais dire révolution, mais c'est pas une vraie révolution, mais la création de la Suisse moderne en 48. Donc on l'a pas vraiment vu venir, à tel point que le pauvre le roi Louis-Philippe, roi des Français, quand il doit quitter précipitamment son palais des Tuileries, eh bien le fait en oubliant d'emporter son portefeuille. Donc il part sans un sou, il se réfugie à Londres, et c'est ainsi qu'on crée une république, l'une des plus éphémères républiques, la Deuxième République, puisqu'elle va amener finalement au pouvoir quelques mois plus tard ce fameux Louis-Napoléon, neveu Napoléon Ier.
C'est des drôles d'années qu'on vit.
Qui deviendra justement en 1852 l'empereur des Français. Ce sera le Second Empire.
N'oubliez pas que celui qui vous parle tous les mardis sur Radio Fribourg, celui qui chaque semaine vous raconte une autre histoire, a également publié beaucoup d'ouvrages, et celui-ci, je vous le recommande toujours, hein, c'est La Révolution française pour les nuls, toujours disponible aux éditions First. On se retrouve la semaine prochaine, hein, Jacques Tornard.
Eh oui, à la semaine prochaine.
La story Radio Fribourg. On a plongé dans nos archives et on a retrouvé ça.
La bonne nouvelle du jour.
Et bonne nouvelle pour les fêtards new-yorkais, ils profitent désormais d'un bus qui traite les gueules de bois. Alors, oubliez café et aspirine, ce bus itinérant propose à New York donc de vous remettre sur pied les lendemains difficiles. Il s'appelle The Hangover Club, ou le club des gueules de bois en français tout simplement. Il se promène dans les quartiers les plus fréquentés de la Grosse Pomme, et à l'intérieur de ce bus donc, les fêtards reçoivent quelques injections qui les retapent, et en 30 minutes à peine.
Des injections, c'est-à-dire qu'on va les piquer.
Exactement. Il y a plusieurs picouses à
disposition.
C'est vrai
que ça calme, t'as moins envie d'avoir une gueule de bois. Hein.
Ouais, apparemment c'est assez efficace parce qu'en 30 minutes, bing, tu repètes le feu puis t'es reparti comme en 14.
Ah, donc c'est pour aller d'une fête à une autre. C'est ça le principe.
Je sais pas, je connais pas les horaires d'ouverture. Je pense que c'est du 24-24, j'imagine. C'est un service à domicile donc qui est proposé sur demande pour ceux qui n'auraient pas le courage de sortir de chez eux. Donc si t'es pas bien, tu les appelles et il y a l'infirmier ou l'infirmière qui vient dans ta chambre te donner une injection. Donc, dans l'intraveineuse installée donc par des infirmières certifiées, il y a un cocktail de vitamines et de médicaments antidouleurs. Trois formules existent, le shoot clair, classique qui offre hydratation immédiate et médicaments contre la nausée. Il y a le super qui ajoute quelques vitamines pour vous redonner de l'énergie. Et le méga avec du magnésium liquide et de la vitamine C. Alors tout cela a évidemment un prix de 165 à 217 dollars.
Oula, ouais, quand même,
hein. Ça fait cher.
Et puis en plus, c'est pas toujours efficace d'après ce que j'avais pu voir. Hein.
J'ai testé ça
sur des cobayes en donnant du placebo et du vrai. C'était des Belges qui avaient fait ça. Et ça marche pas forcément toujours.
Alors voilà, c'est un petit luxe quand t'es vraiment désespéré et puis qu'il y a les petits nains qui tambourinent dans le grenier. Eh ben, faut essayer quoi. En tout cas, le bus Hangover Club a déjà été testé et approuvé par les stars qui font régulièrement la fête jusqu'aux petites heures. Rihanna, Lindsay Lohan, Paris Hilton. Apparemment, elles auraient.
Ah bah celles qui ont les moyens de se payer 300 dollars à une petite cuite quoi.
Pour aller s'asseoir une demi-heure sur la banquette d'un bus au centre-ville de New York.
Je sais pas si Rihanna prend le bus. À mon avis, elle a dû faire venir les shots à la maison, hein, Rihanna. Hein.
Certainement.
Radio Fribourg.
Radio Fribourg.
La story Radio Fribourg. On a plongé dans nos archives et on a retrouvé ça.
OVO présente Café Complet.
Adieu Janine.
Salut Bernard.
Et dis donc, t'as vu? On a gagné le concours du Sion Roman. J'ai fait au comptoir.
Mais je me rappelle de rien.
Mais ouais, on avait rempli sur le stand du comptoir. C'était bonheur. On a gagné, c'est marqué. Gagner 2 semaines à Paradisland.
Paradisland?
Mais c'est à l'autre bout du monde, c'est bien loin de notre boule, t'sais.
Mais moi, je suis jamais sorti d'ici, je sais pas, moi j'ai un peu peur.
On va y aller, faut aller à l'aventure, on m'a dit, faut aussi un petit peu oser dans la vie, tu vois comment?
Pas toujours rester en boule, t'sais.
Aussi un peu voir le monde.
Mais oui.
S'ouvrir à la planète.
C'est important.
Allez, on y va!
C'est fatigant ce voyage.
C'est long.
Aïe, une heure d'une pipe.
Bon, allez, on va pas de temps,
Brandy. Ouais, mais alors, loin.
Via à l'hôtel.
Loin à l'hôtel.
Maintenant, allez.
Bon. Allez, on y va.
Moteur.
Madame, monsieur, bonjour, bienvenue à Paradise Land.
Un nom de bleu. Bonjour.
Bonjour.
C'est bien joli ici.
C'est bonheur.
Mais oui.
C'est bien accueillant cette affaire.
Ouais.
On vient chercher notre clé pour la chambre.
Oui, donc vous êtes donc Janine et Bernard.
Ouais, c'est juste.
C'est la chambre 95.
Comment?
95.
Comment?
La chambre 95.
Comment?
80, ça
attends,
veut dire quoi,
4,
nom bleu.
4 fois 20, ça fait 80, 80 plus 15, 95. 95, mon gueule. Ouais, merci. C'est bien, bonheur.
Merci, madame, merci. Bon, Bernard, elle est bien jolie, cette chambre.
Ah, on est pas mal, quand
c'est
même.
Joli, non,
c'est
bleu.
Joli, t'as vu, ils ont mis des tulipes sur la fenêtre.
C'est pas mal, c'est pas, ça me plaît encore bien.
Ça me court bien.
Dis donc.
Non, mais on a un peu sautant, là.
Qu'on ait un peu les nouvelles.
Mais quoi, tu trouves rien dans cette radio?
Ah, mais sautant.
C'est toujours...
L'aiguille au milieu. Mais... au milieu, sautant.
Y a rien sur
mais
cette
non,
radio.
Sautant, tu l'as pas.
Mais non, y a rien.
88 à 108, t'as sautant, pas de problème.
Écoute, non, je trouve pas.
Bon, on va pas s'emmerder par à travers, on va sortir, bouger un peu, on va voir un peu le pays, ouais. Bon, allez boire un verre au bar de l'hôtel.
Ok, oui, hein? Ok.
Ok. Bon, Janine, qu'est-ce qu'on prend?
Bonjour, monsieur, dame. Vous désirez?
Bonjour. Moi, je prendrais volontiers un Ribella.
Nous n'avons pas cela.
Bon, alors, un Sinalco.
Franck Sinatra?
Non, vous connaissez pas Sinalco, bien. Alors, donnez-moi un Leco, alors.
Excusez-moi, je ne sais pas de quoi vous parlez.
Mais Bernard, ils ont rien du tout à
Paradise
Island.
Ouais, écoutez, moi je vais faire moins compliqué. Donnez-moi seulement un sportif aigné.
Écoutez, je suis désolé.
C'est incroyable, ils ont rien
ici c'est ou bien Paradise Land, on m'a dit c'était un super truc
mais
là.
Non, t'es cul.
Rien
à boire.
Ouais,
bon, moi je vais prendre un thé froid alors comme ça, c'est bon.
Oui.
Ben moi aussi alors.
D'accord, merci.
Mais ils ont mis quoi?
Il est pas tant bon ce thé froid, non, mais, t'es cul. Ils ont pris du thé, ils ont refroidi, ils ont foutu au micro-ondes, ils ont mis 2 glaçons quoi.
Cognerie.
Non, mais c'est pas possible. Hey, bon, qu'est-ce qu'on fait maman?
On se fait un yas?
Vous désirez?
Faut amener les cartes au bien, s'il vous plaît, merci.
Non, de plus, c'est quoi ces cartes?
Hey, jamais vu des trucs pareils.
C'est quoi ces dessins?
Mais c'est quoi, y'a même pas le nil. Oh, une pomme avec le bourg.
Non, mais c'est incroyable, c'est quoi ça?
Mais non, t'es qu'on est bec de gaz, hein. C'est pas tant Paradise Land, c'est les emmerdes Land. Ça commence comme ça.
Mais... Oh. Bernard.
Oui.
Hein, c'est 5h30.
Déjà?
On va aller souper.
Ouais, 5h30. Allez, rapidement.
C'est l'heure.
Ah, il se fait le café complet.
Mais oui.
On reste au bar de l'hôtel,
oui. Mais oui, on reste
ouais,
là.
Pas tant que compliqué la
mais
vie.
Oui.
Pour amener la carte, on aimerait un café complet, monsieur.
Volontiers. Puis-je vous suggérer les tourtellines au homard du bisque de maquereau?
Oh ben, écoutez, il faut pas tant vous compliquer.
C'est pas compliqué, non. Mais...
Salade de cervelas, pour moi, ça va extra avec une tranche de raccord. Pas de problème.
Nickel. Pour moi, c'est nickel. La même chose.
Écoutez, je vous apporte quelque chose. Vous m'en direz des nouvelles, d'accord?
Ok, ok.
Merci.
Je suis un peu tenté, hein. Ok.
Qu'est-ce que cette affaire qui nous a porté, là?
C'est bizarre.
Vous avez pas de la moutarde? Faire passer un peu la sauce, là. Elle est bizarre, quand même. Ça... Amenez-moi la moutarde. Eh non, t'es cul.
Aïe, elle est forte. Aïe, elle est forte, dis donc.
Elle est plus forte que la Tommy, non?
Ça n'a rien à voir, hein. Ça n'a rien à voir, je peux te dire, hein.
Bon, et maman, on va remonter à la chambre, aller voir Darius, s'il y a le téléjournal, c'est déjà la demi.
19h30, faut y aller. Faut y aller. Mais il est pas là, Darius.
Tourne-moi un peu les numéros, là.
Darius.
La 2, la 3. Non, mais c'est sur la 1, la drôle. Mais sur la 1.
Mais
c'est quoi cette affaire? C'est
pas. Il a changé.
C'est pas Darius.
Le plateau.
Il est tout noir, c'est pas Darius.
Non, mais c'est pas lui. Non, franchement.
C'est embêtant. Bon, écoute, maman, je suis un peu déçu, mais c'est pas grave. Allez au lit maintenant, il faut aller se réduire, parce que c'est déjà 8h. Prends quand même le set à côté, si jamais il y a les
avec
moustiques.
Avec des moustiques, on
ouais,
sait jamais.
Ici, c'est Moustique Land, pas ouais. Tant Paradise Land. Hein.
Non, non, mais bon, mais 8h, faut quand même qu'on aille dormir.
Ouais,
parce 8h, que demain, il
ouais.
y a David et Bichir.
Regarde la dédicace, faut
bien.
qu'on soit prêt, pas
parce
qu'on soit en retard.
Ouais, ouais. Bon, lui, il sera aussi fatigué. Hein.
Ouais, un sacré trajet depuis Colorado. Hein.
Ça fait une trotte, hein, ouais.
Allez, bonne nuit, maman.
Bonne nuit, papa.
La story Radio Fribourg. On a plongé dans nos archives et on a retrouvé ça.
Cet homme.
Radio FR.
Jamais 203.
Jamais 203.
C'est le sport du moment et Amaël a décidé de s'y mettre pour nous pour Jamais 203 sur Radio Fribourg.
Effectivement, Mike, cette année, avec mon mari et les enfants, on s'est mis au SUP. Comprenez le stand-up paddle. Comprenez? Ramez debout. Comprenez, vous avez une planche à voile sans voile, vous vous tenez debout dessus avec une rame et vous ramez en vous exclamant « Mon Dieu, comme c'est relaxant, comme c'est beau, comme c'est chouette !» Alors, on s'est mis d'accord sur le stand-up paddle parce que là, mes filles sont à une période de leur vie où elles n'ont plus envie de faire des promenades à pied. Non mais franchement, maman, qui dans la life a envie de marcher pour marcher comme ça sans but, c'est ridicule. C'est quand même fou ça, j'ai passé 4 ans de ma vie de maman, à sortir chaque jour que Dieu a fait, quelle que soit la météo, pour aérer mes enfants, parce qu'il faut que ces petites choses qui ne savent pas encore marcher s'oxygènent et reçoivent de la vitamine D. Alors, évidemment, Mike, Bastien, vous ne vous rendez pas compte, mais...
On n'a pas la chance d'avoir des enfants. Hein.
Habiller un bébé, sortir la poussette, installer le bébé, s'assurer qu'on a des couches de rechange, un biberon, un bonnet, un chapeau, des mitaines, un hochet, un doudou, une pâte à vomi, un truc pour couper le vent, une capote pour la pluie, une ombrelle pour le soleil... À la NASA, ils prennent moins de trucs pour aller en repérage dans l'espace, hein, je suis sûre. Et ça, c'est quand tu as un seul enfant. Alors que quand on a deux, tu reprends tout ce que je viens de lister, mais en plus du bébé, t'as l'aîné, qui a 2 ans. Et là, tu ajoutes des mouchoirs, un bout de pain à mâchouiller, une poupée, un ballon, et tu t'en vas avec ta poussette et ton aîné qui marche à 2 à l'heure. Et qui s'arrête pour ramasser des cailloux. Oh maman, cailloux. Des fleurs. Oh maman, fleurs. Des caca de chien. Oh maman, non. Et puis, après 20 mètres, évidemment, c'est ta petite qui veut pousser la poussette. Mais comme elle ne fait pas 1 mètre de haut elle-même, il faut la porter pour qu'elle puisse pousser la poussette.
Oh, c'est chou.
Et puis quand tu la reposes par terre parce que tu n'as plus de bras, ta petite qui se croit grande, elle, elle ne veut plus marcher, elle pleure, elle s'assied par terre en hurlant qu'elle veut regarder Peppa Pig. J'ai donc marché marché. Oui, j'adore Peppa Pig. J'ai donc marché K1K pendant 4 ans. Avant de passer au stade suivant, vous savez, l'apprentissage du vélo. Ouais, le vélo Hello Kitty avec les petites roues roses.
Ah oui.
Que tu commences par pousser tout doucement, comme t'as poussé la poussette quelques années plus tôt. En fait, quand j'y pense, les gars, une fois que la sage-femme t'a dit « Maintenant, il va falloir pousser, madame !» T'arrêtes plus jamais de pousser des trucs de ta vie. Tu pousses des poussettes, tu pousses des vélos, tu pousses des caddies de supermarché. Poussez, madame, poussez. Donc, le vélo...
Tu pousses même des gueulantes, quoi.
Ouais, ma souris aussi, ouais. Donc, le vélo, tu le pousses. Ensuite, quand ton enfant prend un peu d'assurance, tu pousses le vélo, mais en courant. Et puis plus tard, tu pousses juste pour lui donner le départ. Mais ensuite, tu cours quand même parce que tu te rends compte que t'as oublié d'apprendre à ton enfant qu'il y avait des freins sur un vélo. Alors ensuite, tu cours chez toi, chercher du mercurochrome, des pansements et de l'arnica. Et finalement, quand tes filles ont l'âge de marcher à ton allure, elles te disent qu'elles préfèrent rester faire des TikTok à la maison pendant que toi, tu vas faire un parcours vita avec le chien. Franchement, c'est ingrat.
C'est ingrat, ouais.
Donc, on a essayé de trouver un loisir sportif qu'on pourrait faire tous ensemble en famille. Et puis, on est tombé sur le stand-up paddle. Alors, je sais pas, ramer sans but précis, c'est moins ennuyeux que marcher sans but précis. Bref, on se procure 4 paddles gonflables avec une pompe. Manuel, la pompe.
Ah, oui.
Comme il a fallu à peu près 20 minutes par planche, soit 1h20 pour les gonfler les 4, et qu'ensuite on a tous été se coucher tellement on était crevés, on s'est dit qu'on serait bien malin de ne pas les dégonfler et les regonfler à chaque fois qu'on va au lac. Sauf que 4 planches de 3 mètres chacune, à moins que tu travailles chez Glaçons Matériaux et que tu aies ta propre fourgonnette, tu les déplaces comment?
C'est vrai.
Facile, me dit mon homme qui ne travaille pas chez Glaçons Matériaux. On va les mettre sur le toit de la voiture. Donc, dorénavant, quand vous croisez à Fribourg une voiture avec 4 paddles sur le toit qui circule à 40 à l'heure tellement on est anti-aérodynamique, et ben vous saurez que c'est nous, hein. Faites-moi un petit coup de klaxon, ça me fera plaisir. Merde les filles, couchez-vous, faut pas qu'on nous reconnaisse.
Pour la honte.
Et alors, quand je vous racontais l'attirail qu'il faut pour une promenade en poussette avec 2 enfants, imaginez-vous que c'est rien à côté de ce que vous emportez pour faire du paddle. Les 4 planches, les 4 rames, les combis, les gilets de sauvetage, le pique-nique, les lunettes de soleil, les serviettes de bain, les culottes de rechange, la crème solaire et l'arnica. N'oubliez jamais la pommade à l'arnica pour tous les bobos. Oui, parce que dans cette rubrique, ce que je voulais vous raconter à la base, c'est mon premier jour de stand-up paddle de la saison.
Il me semblait, hein.
Ouais. Parce qu'on pouvait pas attendre l'été, vous comprenez, il fallait les tester immédiatement. Alors, direction le lac de Morat, un après-midi d'avril nuageux, température de l'eau 11 degrés. Un vent de malade. Force 10 000.
Bien les bruitages, hein.
Tellement. Bon, même les planches à voile sur le lac, elles touchaient plus l'eau, elles volaient comme le skateboard de Marty dans Retour vers le futur.
Oui.
Mais nous, téméraires, on y est, on y va. Alors moi, j'ai décidé, pour cette première, de pas me mettre debout sur la planche, mais de pagayer à genoux pour éviter de finir dans l'eau glacée. Après 20 minutes, à peu près au milieu du lac, je rame contre le vent pour faire demi-tour, et c'est là qu'une bonne grosse bourrasque me déstabilise. Je perds l'équilibre en étant à genoux, je sais, c'est pathétique.
J'imagine.
Et je m'envoie toute seule un puissant coup de rame dans la gueule.
Oh non!
Avant de tomber avec une grâce tout à fait discutable.
Oh, ma peau.
Dans une eau à 11 degrés.
Oh là là,
oui.
11 degrés. Alors, vous imaginez, hein, ça te coupe la respiration, ça te paralyse les muscles.
Ouais, c'est Léonardo DiCaprio dans Titanic. Hein.
Non, alors non. Si encore. Quand tu essaies de remonter sur ta planche à côté de toi, un éléphant de mer, ça fait preuve d'une élégance infinie.
Non.
Par contre, le côté positif, c'est que le froid, tu perds 2 kilos d'un coup et tu es raffermi pour une semaine. Hashtag pour d'autres conseils fitness, abonnez-vous à ma chaîne. Et quand finalement, donc, je me retrouve à 4 pattes, sur ma planche, haletante et tremblante, mes filles me rejoignent hilar et me disent « Mais maman, t'es une licorne !» Alors effectivement, en me palpant le front, je sens une bosse que même dans les épisodes les plus violents de Tom et Jerry, j'ai jamais vu. De la taille d'un œuf, la bosse, défigurée pour une semaine, maman.
Oh, la pauvre maman.
Alors bon, finalement, pour cette année, moi, entre la marche à pied, le stand-up paddle, le yoga ou le vélo d'appartement, comme sport, je choisis l'apéro.
Ah oui.
C'est plus facile, j'ai une bonne descente et c'est moins dangereux. Santé.
Santé. Santé.
On avance à rien dans ce canoë.
c'était ça ou Cargo de nuit d'Axel Bauer ou alors la musique de La Croisière s'amuse. Hein. Alors c'est vrai, je veux témoigner devant les auditeurs et auditrices de Radio Fribourg, j'ai vu les photos d'Amaël, une vraie licorne. Hein.
Ah ouais.
Une vraie licorne.
Chez les personnes âgées, on dit quand on a une bosse comme ça, c'est la méchanceté qui sort.
Non, si. Amaël, ben non. Vous connaissez franchement de la méchanceté dans l'équipe de Jamais 203? Non,
aussi.
J'ai mon œil quand même qui regarde un œil noir vers Jonathan, hein, parce que c'est trop difficile son quiz musical ce matin. Hein.
Ouais, moi j'étais un peu méchant avec mon quiz.
Un tout petit peu. Hein. Ouais. Qu'est-ce qu'on aura la semaine prochaine, Jonathan? Parce que c'est quand même toi, on va le préciser à nos auditeurs, qui est le coordinateur, hein, qui programme à chaque fois les humoristes qui viennent dans Jamais 203. Semaine prochaine, ça va être un peu spécial, dernière émission avant l'été.
Les meilleurs moments. De Jamais 203. Faire honneur à Jamais 203.
Le meilleur du pire.
Voilà, exactement. Ouais. C'est le meilleur de tout ce qui était affligeant.
On remercie en tout cas Jonathan, puis on remercie Jérémy Croza qui est aussi avec nous ce matin. On te souhaite un bel été. Peut-être que tu seras dans la rediff la semaine prochaine, qui sait. Hein.
Bah, si c'est le best-of, j'espère bien.
Bah ouais, quand même, voilà.
J'espérais trois fois.
Et on vous souhaite une bonne journée sur Radio Fribourg avec Kid Laroi. C'est le nouveau Thousand.
La story Radio Fribourg. On a plongé dans nos archives et on a retrouvé ça.
Je vais vous parler de la doyenne du Japon. Elle est décédée à l'âge de 116 ans, d'après les responsables de la ville nippone où elle s'est éteinte. Elle a traversé deux guerres mondiales, Fusa Tatsumi. Elle était née en 1907, près d'Osaka, plutôt en forme jusqu'à la fin. En septembre, elle avait une fête organisée pour elle. Le Japon, il faut le dire, est au deuxième rang des pays les plus âgés, derrière Monaco, avec notamment plus de 47 000 centenaires. Fusa était devenue la doyenne de l'archipel après le décès l'an passé de Ken Tanaka, qui est décédé à l'âge de 119 ans. Elle avait été reconnue en avril 2022 par le Guinness World Records comme la doyenne de l'humanité. Bon, celle du monde, le titre appartient à l'Espagnole née aux États-Unis, Maria Brañas. Elle aura 117 ans le 4 mars 2024.
La story Radio Fribourg. On a plongé dans nos archives et on a retrouvé ça.
Je vais vous parler d'un téléphone ce matin, un téléphone pour chien.
Téléphone pour chien, tiens.
Oui, alors ça c'est... il y a quelqu'un qui s'est dit, bah tiens, pour atténuer la solitude des chiens, je vais faire un test et fabriquer un dogphone. C'est Iliana Douglas, spécialiste de l'interaction animal-ordinateur à l'université de Glasgow, qui a potassé le sujet.
Ah, quand même universitaire.
Ah bah quand même, on fait pas des téléphones pour chiens comme ça dans des caves à la Silicon Valley. Non.
Dans les universités.
Voilà, parce qu'en fait ils se sont dit, les chiens ils se sont habitués à notre présence quand il y avait le télétravail, donc quand on avait ses maîtres tout le temps à la maison, donc on pouvait jouer avec. Et tout d'un coup, bah, quand il faut retourner au bureau, le pauvre chien il se retrouve tout seul à la maison. Il n'a plus l'habitude et donc il est triste et malheureux seul à la maison.
Il faut l'appeler et dire je ne suis pas très loin.
Voilà. Et donc comment marche le dogphone? Parce qu'il y a quand même des expérimentations. Voilà. Elle a fait ça avec son labrador qui a 10 ans pour voir un petit peu, pour mettre au point ce concept. Alors c'est une baballe.
Ah ok.
Une balle, dès qu'on la secoue, il y a des détecteurs de mouvement.
Ouais.
Dès qu'elle atteint un certain niveau de secousse, ça passe automatiquement un appel en fait.
Oh ben ça sera non-stop. Toute la journée il y aura des appels. Vous ne pourrez plus bosser, l'appel sera constant.
Ouais, d'ailleurs ils disent, ils ne sont pas toujours sûrs que Zach ait conscience du lien de causalité entre le fait de ramasser la balle et de passer un appel. Mais en fait lui il prend tout le temps la balle, donc il appelle sans arrêt. Hein. Et donc voilà, donc il y a l'accéléromètre dans la balle. Dès qu'elle est secouée par le chien, ça déclenche un appel vidéo vers son propriétaire. Et puis le maître peut aussi appeler son animal qui est libre d'ignorer l'appel ou d'y répondre. Bon. C'est-à-dire que, bonne nouvelle, l'animal peut ignorer son maître.
Bah, si c'était avec les chats, on serait tout le temps ignoré.
Ah oui, c'est clair, le chat. Mais il t'appellerait, puis après, une fois que tu l'aurais en ligne, il dirait oh non, rien.
Ah, rien, puis il raccroche.
Il raccroche.
Et ça, c'est les chats. La journée, exactement. Quand on est là, il nous stoppe, et quand on est loin, il s'agnousse.
Ouais, c'est ça. C'est le principe même du chat, ça. Bon, est-ce que vous avez aussi un chien qui est seul à la maison? Et puis.
Vous serez intéressé par un dogphone.
Si vous voulez un dogphone ou si vous avez une solution pour justement éviter la solitude du chien, WhatsApp 079 127 7060.
Voilà.
Ce serait une idée. Voilà.
Lancez-vous.
Lancez-vous. Si vous voulez qu'on appelle votre chien, on peut l'appeler en direct. Si vous voulez. Si vous avez un chien à appeler.
Là, c'est quand même se lancer dans des trucs un peu étonnants et bizarres.
Étonnant. Oui. Pas, on avait bien réussi à faire hurler des chiens avec une chanson.
Ah,
ça marche toujours, ça.
Ah oui.
On avait eu des chiens hurleurs au téléphone, donc c'était la preuve que ça fonctionne.
Donc ça fonctionne.
Story Radio Fribourg. On a plongé dans nos archives et on a retrouvé ça.
Le club de Rio et Tania.
Eh hey, bonsoir tout le monde, bah dis donc.
Et coucou.
Tania n'est pas venue seule ce soir, mais il y a une foule terrible.
Plein d'amis qui ont la carte du club.
Ah, il y en a qui s'aiment.
Bonsoir.
Bonsoir Cécile.
Bonsoir Rio, bonsoir Tania.
Comment ça va?
Impeccable.
Je voulais commencer par Cécile parce qu'en fait on se battait pour lui ouvrir son micro. Donc je voyais le petit bouton qui faisait on off, on off, on off. Ah, quand on est deux pour faire la même chose, hein, ça va pas.
Jour, nuit.
Cécile est en pleine forme. Ce soir, elle va nous parler de porno machine.
C'est ça qui est beau.
Hein,
ça
va être beau. C'est quoi tout d'un coup c'est revirement là
de, non, mais on est dans des sujets un peu comme ça en ce moment. Les sextoys que vous avez pu entendre autour de midi, toutes ces choses incroyables. Ouais. Alors moi, je pense
qu'on parle
ça,
de
hein.
porno machine parce que Thierry Savary est au Brésil.
Oh, j'aurais pas osé. Le directeur n'est pas là, les souris dansent.
Madame.
On a avec nous notre ami Jaidi.
Un peu de musique, hein. Bonsoir.
Bonsoir Jaidi, ça va?
En pleine forme.
C'est vrai?
Ouais.
Prêt pour un gnangnan terrible?
Disons que, comme d'habitude, oui.
Jaidi en pleine forme.
Non, il s'entraîne. Bon gnangnan. Bah, il s'entraîne. Assidûment, tous les soirs, je sais, j'ai des indiques.
Et puis Roy qui est là avec nous aussi ce soir, ça va Roy?
Ouais, ça va bien, je suis très heureux de voir que la chronique de Cécile a l'air très intéressante.
On se réjouit tous, on se demande si on va pas commencer par ça, dis donc.
Vous êtes curieux,
est-ce qu'on met le suspense jusqu'à la fin?
On va garder encore un peu de suspense pour ce porno machine. Et ce soir, on a besoin de vous, comme tous les jeudis soirs évidemment. Vous qui faites partie de ce club grâce à votre téléphone portable.
Oui, et tout à fait.
FRI.
Et votre faculté extraordinaire avec votre doigté d'envoyer des SMS, c'est terrible.
Exactement.
Je parle de doigté, c'est juste parce que c'est pratique pour envoyer des SMS.
Oui, on avait compris. Ouais, on avait compris.
Comment ils s'enfoncent.
Salut tout le monde. Darude passerait bien comme mon intro, nous dit-on par SMS.
Bravo, c'est quelqu'un qui a bien compris le système. Faut envoyer très vite le premier SMS et on est bien servi.
Et en plus, c'est rude.
Donc ce soir, nous avons
envie. C'est pas fini là.
Pardon.
Nous tu as droit, tu es libre. Tu peux t'exprimer grâce à ta carte Gold Member du club de Rio Tania.
Ah, je vais pas me priver.
Ouais, il est comme ça.
Au bout du 11e, on en a un gratuit.
Ouais.
Donc ce soir, ce qui nous intéresse.
Tôt.
Non, je vais vous dire. Ce soir, par SMS, on aimerait que vous nous racontiez vos pires hontes.
Encore?
Ouais. Parce que Roy, lui, il s'est chopé une honte. Il y a pas très longtemps.
Cette semaine.
Donc il va nous expliquer en quelques mots sa honte. Ça va vous aider, vous, de votre côté, à oser vous exprimer, à oser dire « Ah ouais, bon, bah, ça va, je peux dire ce qui m'est arrivé, il n'y a pas de souci. » Roy, qu'est-ce qui t'est arrivé?
Eh bien, disons que dans une de mes classes où j'enseigne, il n'y a que des filles. Et puis pour habitude, quand j'introduis le cours, je dis toujours « Bonjour à toutes et à tous ». Et puis c'est un espèce de petit tic que j'ai. Et puis bien sûr qu'elles n'ont pas arrêté de me répéter « Mais il n'y a que des filles, il ne faut pas dire bonjour à toutes et à toutes, etc. On aimerait bien avoir des garçons, etc. etc. » Puis au bout de la 7e semaine, je me suis quand même un petit peu souvenu. Et puis tout à coup, j'allais dire bonjour à toutes et à toutes. Et puis là, je me suis souvenu qu'il fallait pas que je me trompe, hein, parce que sinon j'avais nouveau droit à une petite remarque. Et ça m'a un petit peu perturbé. Du coup, je savais plus quoi dire. Et c'est sorti tout seul. Et puis je leur ai dit salut les copines. Alors, c'est vrai que j'étais.
C'est-à-dire, c'est ça que tu sors dès que tu te sens un petit peu emprunté. Puis
salut
que
les copines.
Tu sais plus quoi dire.
Exactement. Et puis d'un coup, je savais plus où j'étais. Et puis bien sûr, étant donné qu'elles sont 22, et bien sûr, ça. Voilà.
Voilà la classe.
Exactement. Et après, je pouvais plus rien en faire. Et puis. Voilà.
C'était ça,
pas évident honte. De devenir très sérieux après un bon salut les copines. Hein.
C'était pas mal la
toi,
honte.
Toi au coin, toi puni, c'est pas possible en fait.
Et oui.
Elles ont quel âge, entre 18 et 22?
Voilà, quelque chose comme ça. Hein.
Dis donc, c'est un métier de rêve ça.
Hein, ça te plairait à toi. Ça te plairait.
Roy, ça se passe bien. C'est
cool. ça va pas mal.
Il a que des filles, c'est pas mal.
En plus,
non, pas que ça, non.
JD, une petite honte comme ça au passage.
Disons qu'il n'y en a pas qui me viennent à l'esprit comme ça.
Oh, en fait, il a mon honte. Venir.
Non, j'ai certainement que ça a dû m'arriver des
Des tonnes de fois.
Genre les
c'est vrai que j'allais le dire. Ouais, mais
c'est vrai, il pensait comme ça. Comme Cécile, ça. Peut-être tant que moi et JD.
Alors j'en ai une petite pour faire attente, parce qu'après j'en ai une grosse. C'est comme ça que ça se passe en général, Cécile.
Chacun ça. Alors ça remonte, hein.
J'étais en faculté à Paris, et puis je me suis amusée à faire le cri de la poule dans un conduit d'aération en attendant le professeur qui était en fait derrière moi depuis une bonne minute, qui me regardait imiter. La poule qui vient de pondre un œuf. Le conduit d'aération.
que ta cour de.
Tu lui as dit quoi quand tu l'as vu?
Je me suis retournée, je pense que j'étais rouge, et puis je me suis excusée platement. Je suis retournée à ma place et puis j'ai vécu une année terrible. Ah c'était oui, un cours de grec ancien, c'était terrible.
Puisqu'on est dans les hontes animales.
Oui,
moi j'ai été surpris par un professeur aussi à un moment donné. Ah. On faisait des concours, on essayait de cracher sur des pigeons. Puis à un moment donné, très fier, j'avais réussi à l'atteindre. C'est là, yes. Et puis je me suis retourné, puis le prof, bravo. Félicitations, monsieur Yves. Mm-hmm. Oui, oui. Et là, on se sent vraiment misérable. Hein.
C'est vrai, c'est vrai. Donc, racontez-nous vos hontes par SMS pour commencer, évidemment.
Comment t'es passé à travers, JD?
Avec le JD. Ah,
on va y revenir.
Une honte animale, JD.
Ouais, bah, aussi, ouais, peut-être aussi animale. Ouais. Il n'y a pas si longtemps d'ailleurs. En fait,
j'en ai aussi une animale.
On a une sorte de petite manie en bas au troisième avec Stéphane qu'on connaît bien ici.
Stéphane Guy, celui qui parle suisse-allemand. Ouais.
C'est qu'il arrive parfois qu'on se réponde visuellement ou par téléphone par des cris suspects, enfin des cris un peu bizarres style.
On peut imaginer, est-ce qu'on peut avoir le
on
cri
voit.
Et puis
je
un jour, notre informaticien adoré JP m'a passé le téléphone, j'étais sûr qu'en fait il était avec Stéphane et c'était Jean-Marie Roll.
Qui fait la cuisine.
Qui fait la cuisine, ouais.
Et toi, tu lui as répondu et tu as fait ton cri.
J'ai répondu avec un cri bizarre.
Qui était
ça fait quelque chose un peu de. Un petit peu plus fort.
Fais-le un petit peu plus fort
pour de vrai. Allez, comme ça, tu sais, vraiment.
Il aura compris qu'il fallait pas parler la bouche pleine. Donc au moins, comme ça, t'as été sauvé.
Voilà, c'est exactement.
Bon, je vous raconte ma petite honte avec.
La honte animale de Tania.
La honte animale.
Et n'hésitez pas pendant ce temps-là à envoyer vos messages avec votre honte animale ou pas au FRI au 939. Hein.
Exactement. Donc moi, j'avais un très joli petit chat quand j'avais 20 ans. Enfin, j'ai quitté la maison. Chez moi, la maison n'avait pas le droit d'avoir d'animaux. Donc, quand j'ai eu mon appartement, j'ai dit, moi, je vais prendre un petit chat. Joli, un joli petit chat tigré que j'appelais Mowgli. Hein, c'est joli, Mowgli. Hein.
Bah oui.
Bon, bref. Mowgli, il sortait chez moi. Mais comme j'habitais au 5e, il fallait que j'aille le chercher dehors pour qu'il remonte et que vous voyez un petit peu la combine.
Oui.
Vous avez un chat, vous savez comment c'est. Et alors, un soir, je sors pour aller le chercher, n'est-ce pas? Donc, je voulais l'appeler. C'est le quartier dans lequel j'ai habité mes 20 premières années, donc tout le monde me connaît. Je sors en plein été, tout le monde est au balcon, tout le monde mange, c'est sympa et tout. Et moi, je veux appeler mon chat Mowgli. Et qu'est-ce que je fais? Je dis « Tania !» Tania !
Donc tu t'es appelée toi-même?
Je me suis appelée moi-même. Je ne vous le dis pas les gens.
Mais est-ce que tu t'es répondu?
Au pas de course en rentrant chez moi, ouais, exactement. La queue entre les jambes. C'est la honte, hein. Franchement, c'est la honte.
Je suis sûr qu'il y en a d'autres encore bien pires, hein. Donc, Cécile nous a parlé d'une grosse honte, mais ça, on en reparle d'ici quelques instants.
Ah, ouais. Et on attend vos hontes, hein, par SMS avec le
chéri au départ,
le tour 939.
Et un soir, une fille se présente à la fouille et je lui demande d'ouvrir son sac, mais en regardant mieux, elle avait pas de sac. Mais alors, qu'est-ce qui pouvait passer pour son sac?
Moi, je veux en savoir plus quand même.
On va voir ça tout à l'heure. Alors.
Ouais, volontiers. Ça
continuez à envoyer vos hontes au 939 FRI. Et puis là, il y a Darude qui était demandé justement tout en début d'émission. C'est Seb? Non, on sait pas.
Non, il n'a pas signé.
We'll be right back.
Que je ressente du plaisir, oui.
D'accord. Alors, tu as joui, toi aussi?
Moi, pas encore. Le club de Rio et Tania.
C'est pas une soirée de honte. Hein, c'est une soirée... Oui, Tania.
Excusez-moi.
Expliquez-vous pourquoi vous n'avez pas encore joui.
Parce que je n'ai pas encore reçu ma fessée.
Ah, voilà. Ah, bah, on sait comment il faut faire maintenant.
C'est bon.
On
hein.
a trouvé la clé. Pareil que JD, il s'est payé une honte, là. Ça nous est dénoncé par SMS,
hein.
Ouais.
Ouais.
Grosse honte sur JD qui, un soir, s'est pris une porte de terrasse vitrée, fermée en croyant qu'elle était ouverte. Quel rire signé Lala.
Oui.
Jolie c'est petite bosse.
Non, ça a été encore, mais le nez a failli bien prendre. Je me suis arrêté à une extrémis.
Ça allait.
Je me suis quand même pris la porte, mais moins fort.
Et puis Jess, elle imitait sa prof, puis elle était juste derrière. Ça, c'est un classique, hein. Je crois qu'on l'a tous fait. Hein.
Ça, c'est la honte.
Le coup de l'imitation, pendant la personne derrière, ça, on l'a tous fait.
Coucou. Je voudrais être un petit grain de sable. Oui, c'est ce qui nous intéresse ce soir. Donc, vos pires hontes, racontez-nous.
Oui.
Par Smas. Avec le Ferry, le tour 939. Il y a Cécile qui nous a dit qu'elle s'était chopée une fois une très très grosse honte.
Mais oui, il y a quelques années.
On va en savoir plus.
En Suisse même, pas qu'en France, qui m'est arrivé des trucs affreux. J'étais enceinte jusqu'aux dents. Et puis, je me promenais en forêt, j'ai dû aller faire pipi très rapidement. Parce que quand on est enceinte, on ne peut pas se retenir.
On ne peut pas attendre.
Ah oui, le temps du retour. Il y a de la pression sur la vessie, en fait.
Voilà, donc j'ai fait un énorme pipi très long. Et puis, j'entendais une espèce de rauque, de souffle un peu rauque derrière moi. Je ne pouvais pas m'arrêter de faire pipi jusqu'à ce que je me retourne et que je me retrouve face à face avec deux cavaliers, donc deux chevaux. Et qui, eux, ne m'avaient pas vu. Mais enfin, j'en sais rien, en fait. C'est tout ça, le mystère. Et j'avais, voilà, le pantalon en bas des pieds.
C'est
c'était atroce avec mon gros ventre. Et puis, j'ai eu très peur. Je me suis demandé ce que c'était. J'aurais aimé avoir un cliché. Cécile avec un gros ventre en train de faire pipi dans la forêt et deux chevaux derrière. En fait, je me suis retrouvée nez à nez avec le museau, en fait, des chevaux, des naseaux comme ça. Mais horrible, horrible.
Mais t'inquiète pas, le cheval, il a pas compris.
Une première approche en Suisse, pour moi, ça a été.
Le cheval, il a pas honte hein, quand il fait
non,
ça.
Non,
hein.
Il a pas compris.
Non, mais les cavaliers qui étaient dessus, mon Dieu, j'ose même pas y repenser.
Bon, alors, vous nous racontez vos hontes par SMS ce soir. Ça, vous le savez, avec le FRI au départ, le tour 939. On a quelques débuts de petites hontes. Parfois, il nous manque la fin, donc nous avons besoin d'en savoir un petit peu plus grâce à Monsieur Chaidi et ses doigts de fée.
Oui, alors quelqu'un qui bosse dans la sécurité, hein, qu'on est en train d'appeler, et donc qui a fait une fouille à une fille.
Donc quelqu'un de sérieux.
Voilà,
oui,
quelqu'un de très sérieux.
Quelqu'un de sérieux, attention.
Et puis donc, que s'est-il passé?
Allô.
Bonsoir, c'est qui?
C'est Seb.
Ça va Seb, ça va bien?
Écoute, pas mal.
Alors Seb, raconte-nous un petit peu ce qui s'est passé, puisqu'on a eu un petit bout de message qui nous manquait, je crois. Hein.
Ouais, j'ai pas pu écrire la fin, je suis en train de rouler malheureusement.
Non.
Ah voilà.
Je vais m'arrêter.
Bien, bravo Seb.
Sinon, tu raccroches.
Ça va être très très sérieux, nous. Donc,
Justement. Bah, oui.
Mais justement, ça pose des fois des petits problèmes. De parce qu'une fois, justement, une demoiselle se présente à la fouille, bien gentille et tout. Je lui ai demandé gentiment d'ouvrir son sac. Et quand j'ai eu le malheur d'éclairer ce que je croyais être son sac, et ben, il s'est avéré que c'était plutôt son arrière-train.
Oh mon Dieu.
Oh là, oh là, là. Ça veut dire qu'elle était proportionnée, mais elle a juste un gros cul, quoi.
C'était un petit peu gênant. Voilà, exactement.
Et le pire, c'est qu'elle était sûrement super gentille, c'est ça, hein?
Ah, très très gentille. Et voilà, très gentille. Elle a très très bien pris.
En plus, ouais, mais bon, alors elles sont adorables.
Parce qu'elle a sérieusement pris, là.
Ouais, alors ça, franchement, je crois que pour ce soir, c'est quand même toi qui as la palme de la honte, hein.
Elle est quand même pas mal, celle-là.
Ouais, ouais, ouais. Elle est pas mal, honnêtement, ouais. Quoi.
Bon, il y a quand même des gens qui se prennent des vitres et tout, moi ça va pas encore arriver.
Oui, bon, ça c'est JD un petit peu quand même, non?
Ah, je connais pas non plus.
JD, il spécialise des vitres?
Ouais, mais non, mais bon, j'avais des circonstances atténuantes, c'est-à-dire qu'il y avait un pare-mouche qui était dressé devant cette fameuse vitre.
Oui.
Et d'habitude, quand tu mets un pare-mouche sur l'entrée d'une terrasse, c'est que,
c'est que la porte est ouverte,
ouais. Ce qui est logique, ouais, c'est vrai.
Quelque part logique. Donc ce pare-mouche n'avait soit rien à faire là. Soit rien à faire là.
Soit c'est la vitre, voilà, qui avait rien à faire là.
Voilà, voilà. Oui.
Tout le monde mange une vitre au moins une fois dans sa vie.
Oh oui.
Moi-même, il y a 3 semaines, sur le balcon de la radio, quelqu'un avait refermé en fait la porte-fenêtre. J'avais pas vu qu'elle était refermée. Je me suis lancée tête baissée dans la porte-fenêtre qui donne sur le bureau du directeur de la radio, donc je me suis esclaffé la tête collée à la vitre devant lui, c'était splendide.
Ah, donc en même temps, il n'y a pas trop à critiquer, ça va.
Ouais, ça va. Non,
puis,
ça va.
Seb, toi, il t'arrive encore